Et nous revoilà pour la deuxième partie de notre revue de presse comics sur toutes les nouveautés du mois d'octobre. Eh bien, on va commencer par le mois d'octobre. Par Image. Chez Image, on a noté pas mal de choses ce mois-ci, et notamment, essentiellement, chez Topco. Une fois n'est pas coutume, c'est vraiment l'éditeur qui va faire dans la nouveauté. Alors, on va quand même parler chez Image Centrale. Avant tout, il y a quand même toujours des rééditions de titres à 1$, avec la possibilité pour vous, si vous ne les avez jamais lus, de relire le premier Hunt, qui sort actuellement en français et dans les chroniques de Spawn.
Est-ce une façon d'essayer de soutenir un titre qui fonctionne pas des masses ou
Surtout que le 13 qui sort le même mois, est à 1,99$ pour effectivement soutenir les ventes.
Ouais, donc
ça sort pas forcément
Le titre All Star méga hyper génial et tout.
Alors il y a également
finalement a fait long feu quoi.
Il y a des rééditions de numéro 1 de Hack Slash et Dead at 17, donc deux séries respectivement par Tim Seeley et Josh Howard, donc qui sont arrivées maintenant chez Image mais qui n'étaient pas à l'origine. Donc c'est une manière pour Image de nous rééditer les numéros 1. On a également Godland.
T'es pas chez Image ?
Non, c'est, ça a commencé chez David View au moins pour Hack Slash et Dead at 17.
Je suis un peu tourné.
Si, d'ailleurs David Zio avait eu un problème parce qu'il y a deux épisodes qui lui avaient été refusés par Diamond, qu'ils ont auto-distribué, ce qui fait qu'ils ont fait un gouffre financier.
C'était un peu trop...
Ouais. Oh. Et donc là,
Même Diamond maintenant trouve que c'est trop violent. Bah dis donc, ils ont pas lu les banques Queen & Co alors. Hein.
Et donc il y a Gunland qui sort actuellement dans Strange.
Ouais, et ça je trouve que c'est mine de rien, une série qui est complètement sous-estimée. Et qui est très intéressante à lire.
Moi,
alors, faut aimer le dealer cosmique de Joe Casey.
Et les dessins de Tom Sciolis
qui sont très kirbyens dans l'âme. Mais ça fonctionne.
Voilà. Et il y a évidemment le Madman de Michael Red qui revient effectivement avec une réédition du numéro 1.
Je te demanderai pas ton avis sur Michael Red.
Ce n'est pas la peine. Mais j'avais effectivement une autre possibilité à vous proposer pour ceux qui veulent des choses intéressantes. C'est les mages de Matt Wagner.
Tout à fait.
Avec The Hero Discovery.
Mais c'est très bon aussi, hein, le Madman. Hein.
Et donc, Mage, c'est la réédition de l'album. Donc, nouvelle impression. Donc, 424 pages couleur, $40. C'est pas cher au final.
Non, et puis bon, c'est vraiment sympa. Enfin, c'est une relecture du mythe du roi Arthur et tout qui vaut vraiment le déplacement.
Et donc là, les 15 numéros sont disponibles en un seul tome. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Donc chez Topco, par contre, on arrive avec un nouveau Pilot Season. Ah oui, le précédent est pas encore terminé, on sait pas qui a gagné, ils en annoncent déjà un suivant.
Et si j'en veux bien, ça fait quand même la troisième fois qu'ils nous lancent le Pilot Season.
Quatrième.
C'est le premier, c'était qui avait gagné ?
Le premier, c'était Velocity et Cyblade qui avaient gagné.
Ouais, et il n'y a jamais eu de série.
Si, il y a eu deux séries limitées.
D'accord. Je me rappelle bien, c'était au départ pour lancer The Ongoing.
Ouais, non, la série ongoing de Cyblade s'est arrêtée au bout de 4. Celle de Velocity a été annulée, reportée au calendrier grec, sortie 2 ans plus tard sous le format mini-série et avec des auteurs différents.
Ouais, donc en clair, ce qui était un coup marketing, enfin du moins qui pouvait être une initiative intéressante, s'est transformé en espèce de coup marketing foireux et foiré.
Le volume 2 a couronné deux histoires qui sont absolument impossibles, qui étaient conçues comme des one-shots et vraiment il n'y a rien à faire pour faire des ongoing derrière. Donc c'est reporté au calendrier grec. Le troisième, on n'a toujours pas les résultats. Et là ils en lancent un quatrième hebdomadaire avec 4 titres cette fois-ci. Alors Crosshair avec Alan Jefferson au dessin. The Asset, Seven Days from Hell, qui est celui qui va sûrement se vendre le mieux parce qu'il est quand même dessiné par Brian Steelfreeze.
Oui, mais alors là, effectivement, si c'est lui qui gagne, on se dirige effectivement vers une mini-série, parce que Steel Freeze, c'est un auteur que j'adore, c'est vrai, mais le mettre sur une série mensuelle, ça va être un massacre.
Et le dernier annoncé, c'est Middle-Earth, qui est écrit par Sylvestri et David Wool, avec des dessins de Stéphane Seljic.
Qui avait Switchblade. Qui faisait des choses pas trop mauvaises.
Non, qui est pas mauvais. Je pense que c'est d'ailleurs lui qui va gagner, parce que c'est vraiment la seule équipe d'auteurs que Topco est sûr d'avoir sous le coude. Pour le précédent Pilot Season, c'était cette série qui était toute écrite par Robert Kirkman et designée par Sylvestri. Donc là, on attend toujours de savoir qui va gagner et si vraiment Kirkman a du temps pour écrire une série pour Topco. Je sens ton rire narquois et je trouve ça un peu déplacé.
Non, non, mais c'est même pas un rire narquois, mais enfin, quand tu lis le pitch de Midway Earth, on nous refait un Pearl Harbor revu et corrigé, quoi. Alors, je suis un peu vague, alors j'espère qu'ils vont quand même éviter le pathos du film, parce que là, c'est bon, le mélo revu et corrigé comme ça, j'ai ma dose de diabète tous les jours, hein, donc c'est bon.
Oui, alors, en plus de ça, on a un TPB et qui là vraiment va être intéressant à lire. Alors, il y a beaucoup de monde sur ce TPB, c'est Topco First Look Volume 1, et en fait, ils vont lancer 6 séries différentes. Dans un seul TPB, ils vont réunir pour $5 les 6 numéros 1 avant effectivement de lancer les séries, pour que les gens aient le temps de découvrir les séries. Alors, il y a une série par Christos Gage avec George Lucas au dessin. Il y a effectivement différentes séries, et notamment deux des 6 titres vont être le retour d'un label qu'on avait enterré depuis bien longtemps, qui était Minotaur Comics, qui était la branche adulte de Topco.
Minotaur Comics,
tu te rappelles pas le Minotaur Comics?
Ben, ma grande honte, non. Je n'ai même pas l'impression d'en avoir lu.
Et pourtant, je vais te donner deux titres qui vont te dire quelque chose. Overgeist de Tony Harris.
Ouais.
Dont j'avais parlé.
Et qui est très bon. Enfin, des défauts dans la construction, mais quand même très intéressant. Je suis d'accord.
Et puis, il y avait Felon de Ruka. Série continue, donc que Greg Ruka avait, où son premier arc faisait 3 numéros, et là Sylvestri,
oui, que j'avais pioché ça dans un bac à soldes à Londres, voilà. Et
c'est très
effectivement
bon.
Je m'étais pris une baffe, je me rappelais pas que c'était ma Minotaur, voilà. Comics,
donc ils ont sorti,
j'avais pas fait gaffe au label.
À l'époque, Sylvestri a dit à Ruka, ça se vend pas, on arrête au 4, et là il a fait, mon arc qui est fini, il est en 3. Il fait, il te reste un épisode, mais puisque ce sera un fill-in, on le fera en noir et blanc. Ce qui avait un peu, effectivement.
Pour flinguer une série, pour l'enterrer, c'est.
Voilà, et qui était effectivement sur une femme qui sortait de tôle, et qui était quand même une série très efficace. Donc voilà, Minotaur Comics.
Bah, ce qui s'était passé pour la série de World Watch de.
Non.
Bah, ils avaient commencé en couleur, ils ont fini en noir et blanc, et ils ont même pas sorti la fin de la.
Je suis en train de te parler de Greg Ruka, et tu oses me sortir Chuck Austen, Stéphane.
Oui, non, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même niveau qualitatif.
Ah bah non. Alors War Watch, pour ceux qui veulent savoir, c'est en gros une espèce de série putassière.
Du cul.
Qui se passe sur Assassin's de la Justice League, et où toutes les nanas sont des Wonder Woman avec le soutien-gorge de Sabrina dans Boys.
Et sans soutien-gorge du tout, même.
Sans soutien-gorge du tout. Voilà.
Non, mais c'est pathétique à lire.
C'est pathétique.
Mais c'est tellement pathétique, ça en devient génial. Et faut avoir ça dans sa collection quand même.
C'est le seul à l'avoir dans sa collection, Stéphane.
Oui, et je sais, j'assume.
Et t'assumes.
Et je revendique.
Voilà. En tout cas, là, sur ce TPB, on va y jeter un œil sérieux, parce que c'est vraiment quelque chose.
Ouais, mais je pense qu'ils vont avoir quelques légers problèmes pour le. Parce que les premiers épisodes, certes, mais ils vont avoir sans doute des petits problèmes pour la suite. Hein. Parce que quand tu regardes les auteurs prévus, Tyler Kirkham, maintenant, il est exclusif d'ici.
Oui.
Donc là, ça va être un peu dur. Big Claymore, Away and Dick.
Bah, qui a fait quand même pas mal de choses, notamment une série dont on avait parlé ici, qui était Battle Hymn, qui était sortie dans la collection Anglo Comics en France, et qu'on retrouve facilement aujourd'hui chez les soldeurs de livres, comme beaucoup de titres bambou.
Je sais pas s'ils arriveront après à reconstituer des équipes. Hein. Bon.
Et puis,
verra bien. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant.
Voilà.
Et c'est dommage, je n'ai pas commandé ça. Oh, que... con.
Ouais, ouais. Non, mais après, celui-là, je pense qu'on arrivera à le retrouver, comme tous les TPB, assez facilement sur des sites qui font de la vente aux enchères autres. Et puis, il y a un autre titre qui... Voilà. Il y a un autre titre, un autre TPB qui sort, c'est celui de Rest.
Le Rest Volume 1, Trade Paperback.
Donc,
story donc, de Mark Bowers, art de Sean Magnanus, oui, qui avait fait du Sandman,
oui,
qui avait fait aussi un épisode remarquable de Namor. C'est alors, pas, c'était celui qui était en vert.
Et qui avait fait Omega Man, la première série.
Tout à fait.
Alors là, en fait, c'est une série qui a été
La première série, celle qui date de Mathusalem.
Alors Rest, c'est une série qui avait beaucoup impressionné Alain, notre grand Alain, quand il l'avait lu.
Laquelle ?
Rest. En fait, le concept, c'est une pilule qui a inventé, qui permet d'empêcher aux gens de dormir. Et en fin de compte, ils n'ont plus besoin de dormir et donc ils travaillent 24 heures sur 24. Mmh. Et sur la manière dont ça a bouleversé l'ordre mondial économique.
Ah oui.
Et effectivement, il avait été fortement marqué par la série à l'époque sorti chez Devil's Due. Là, comme Van Miglia est arrivé chez Topco, notamment avec la sortie de Berserker, et que en attendant, Devil's Due est en train à passer pratiquement l'arme à gauche, hein, c'est inédit plus rien. Et donc là, le TPB va finalement sortir chez Topco.
Oui, et franchement, il y a de très 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 bons auteurs dessus.
Voilà. Alors le truc, c'est
Sean Magnanus, Marco Castiello, du Tim Sale sur les couvertures avec Phil Remenes.
Voilà.
Numéro 1 à 5. 200, ça fait 144 pages pour 14,99$.
C'est honnête. Raisonnable. C'est très raisonnable. Surtout que quand on y pense, bon, évidemment, il est trois fois plus cher que celui qui est plus épais au-dessus. Mais quand même, ça reste d'un très bon rapport qualité-prix.
Oui, ok, mais je pense que celui qu'on disait au-dessus a un côté vraiment très ultra promotionnel. Ils sont là d'un sens pour essayer d'appâter le lecteur pour des futures hypothétiques séries.
Ah, ça, c'est totalement évident. On passe à DC ?
On passe à DC.
Et chez DC, on va avoir deux séries classiques qui se relancent. Une qui n'est pas au 404, mais une au 44.
Oui, la Justice Society of America.
Et l'autre qui n'est pas au 44, mais au double 88, les Teen Titans. Alors, ce sont deux séries qui ont eu des hauts et des bas.
Ouais,
qui étaient dans le bas depuis un temps assez certain.
Les Teen Titans, soyons clairs, depuis le départ de Geoff Johns, quoi, quasiment, ils n'ont jamais pu se relancer.
Ils n'ont jamais récupéré le niveau de Geoff
Johns. On disait, il y a peut-être quelque chose, des moments où il y a eu peut-être un ou deux frémissements. Mais c'est comme un client qui est en coma dépassé. Alors, on attend de voir si à un moment, il y a quelque chose sur le CG, un petit battement de cœur. Et on se dit, il y en a un, poup, on se dit, ah, ça relance. Et non, que dalle.
Alors, c'est écrit pour les Teen Titans par J.T. Krull, qui était donc un dessinateur qui s'est transformé en scénariste en passant de Aspen à DC. Et c'était donc un des protégés de Turner. Il a écrit notamment les Blackest Night in the Titans, où pour moi, il a fait avoir su qu'il y avait deux Terra, une originale et un clone, et avoir oublié ce point essentiel dans son scénario.
Oui, et puis enfin, là, je pense qu'il y a aussi quand même un éditeur qui a pas fait ses devoirs et qui aurait dû bloquer le truc. Le pitch ou le...
L'éditeur aurait dû être viré, c'est clair.
Attends, faut quand même pas déconner, quoi.
Et puis, c'est Nicolas...
Surtout qu'ils ont quand même quelques archivistes chez DC qui pouvaient... aisément dire attendez, il y a une
ouais, bon. Non mais accessoirement toute l'histoire avec le clone, c'est comme Geoff Jones qui l'a tué en partie, puisque ça, elle a été tuée pendant les 52.
Tout à fait. En plus.
Donc voilà, il y a quand même du monde chez DC qui devait savoir qu'il y avait une grosse bourde en termes de continuité, et sur ce coup-là, c'est pas pardonnable. Et en, au niveau dessin, donc c'est Nicolas Scott qu'on a vu sur Wonder Woman et Secret Six qui reprend la partie graphique.
Que dire, j'espère que ça sera quand même le bon, la bonne équipe pour relancer le titre.
Alors, avec quand même un point positif, c'est le retour aux bases, puisque évidemment, on va avoir dedans Super Boy, Wonder Girl et Kid Flash, donc X-Impulse, donc qui sont là. Alors, évidemment, pour l'instant, le nouveau Robin, Red Robin n'est pas dedans. Par contre, on va voir le nouveau Robin qui devrait intégrer dès le 89, avec effectivement Damian qui arrive là-dedans, qui n'est pas du tout content d'être collé dans les Teen Titans, qui par contre trouve très intéressant l'idée d'être leur chef et de les faire obéir.
Oui, alors vu les caractères des, de l'équipe et leur conception de l'autorité et du leadership, ça va.
Surtout que, en plus des trois que j'ai nommés précédemment, on a évidemment Robin et Beast Boy, qui sont quand même de là depuis la fondation de l'équipe, qui donc vont peut-être pas accepter qu'un sale môme leur dise comment faire.
Tu disais
Et puis, cerise sur le gâteau.
Non, mais Beast Boy, en plus, qui est quand même un des membres, qui est quand même de là depuis la première équipe des New Teen Titans.
Oui, bah, et Raven aussi.
Oui, non, mais attends, Miss Boy est apparu dans les premiers.
Dans Teen Titans, avant les New.
Dans Teen Titans, voilà. Avant les. Il était là dans les News.
Et donc surtout.
Après, Raven, à la limite, vu l'incarnation, on peut se poser la question, est-ce que c'est la même
C'est, a priori, c'est la même. Enfin, en tout cas, elle a les souvenirs de l'autre. Et puis, il y a aussi Ravager, qui est de retour.
Bon, alors, on parie que ça va finir avec une coucherie entre Damian et Ravager.
Bah écoute, je pense que Damien est un peu jeune pour Ravager quand même. Mais le défi ne lui fera sûrement pas peur.
Oui, quoique c'est vrai que. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi, il a, oui, il a des 10-12 ans. Ouais.
Hein?
C'est vrai.
Après, il est effectivement capable de l'appeler poulette et de la draguer.
Enfin, bon, de
toute
façon, Ravager, on sait qu'elle est un.
C'est à peu près. Caractériel.
Oui, et puis elle s'est tapé à peu près tout ce qui pouvait bouger dans l'équipe. Enfin, qui était prêt à répondre.
Ouais, c'est pas totalement.
Donc, elle a cassé une petite partie.
Sur Justice Society maintenant.
Vraiment, non, mais j'espère sans rire qu'on aura quand même que la série va repartir, parce que on était quand même on arrivait à un niveau de nullité des derniers numéros de la première série des Teen Titans, enfin des New Teen Titans, et là, il y a des moments où on se demande pourquoi ils gardent le titre encore, quoi.
Sur Justice Society. Là encore, c'était plus bon depuis que Alex Ross était devenu co-scénariste depuis le début de cette série.
Il y avait quand même une ambition.
Il y avait une ambition qui n'a pas été réussie, mais voilà.
Au niveau graphique, ça tenait le coup. C'était baron, c'était bien.
Après, on a eu Willingham qui a été co-scénariste avec Stéphane. Voilà, le micro va encore prendre une claque. Willingham qui était donc co-scénariste avec Matthew Sturge avant la séparation en deux équipes.
Ouais.
Le run de Willingham en soi est à peu près inintéressant de bout en bout, sauf l'arc, le seul arc en fait qu'il ait fait après le départ complet, celui qui se passe dans un futur
avec les nazis, Force voilà. Rage.
Ouais. Et là, l'histoire sur le Force Rage que je viens de lire cette semaine est quand même très sympa. Là, c'est repris par Guggenheim.
Donc en plus, bon, c'était Merino au dessin qui prenait son indépendance par rapport, qui redécouvrait son style après les années d'ancrage sur Pacheco, qui avait donné un espèce de mimétisme. Hein. Et, là, c'est vrai que c'est, la partie graphique était très sympa. J'ai pas lu encore la totalité de l'arc, donc je ne me prononcerai pas dessus. Quand même un a priori plus que positif.
Stéphane, si j'avais pitié de toi, je te proposais de changer le micro.
Ça va, on va.
Ça fait un côté Laurel et Hardy.
Ils veulent tenir, non, t'inquiète pas.
Donc, en parallèle, On a donc le dessin, donc Google Eye au scénario, donc qui s'était fait virer d'Action Comics, et avec au dessin Scott Collins. Alors on espère pour Scott Collins que ça va durer. C'est vraiment le dessinateur qui rêve de se poser sur une série et qui n'y arrive jamais.
Oui, parce qu'après son run mémorable sur Flash, c'est vrai qu'il a été un peu un SDF, enfin, un SSF, sans série fixe.
Il a été sur Marvel Team-Up avec Kirkman.
Ouais, 15 numéros.
Mais en même temps, ce qui l'intéressait, c'était de se poser sur des personnages. Voilà. Qu'il ne pouvait pas faire sur Marvel Team-Up.
On lui fourgue Alpha, enfin Omega Flight, une ongoing qui se transforme en mini-série. Il y avait un potentiel.
Et en fait, c'est vrai que la plupart des projets qu'il a fait chez Marvel à l'époque ont été très courts, et c'est pour ça qu'il les avait quittés.
Ouais. Là, et chez DC, il n'a pas été mieux traité non plus. Hein.
Bah, il avait fait une série Solomon Grundy, tout seul, scénario et dessin. Ouais. Après, effectivement, il devait reprendre Magog, et puis ça a foiré.
Ouais, il a fait quelques fill-in à droite à gauche ou des compléments qui étaient... Enfin bon, c'était pas inintéressant. C'est vrai qu'après, il devait prendre Magog, ça tournait court.
Deux numéros sur un arc en 5.
Voilà. Il fait les pages de présentation sur DC Legacy.
Et voilà, donc c'est vrai que bon.
Et il va faire aussi un épisode de Flash avec Geoff Johns sur le retour de Solomon de Zoom, du Reverse Flash. Donc oui, on attend de voir. Surtout qu'en plus, c'est un auteur qui est assez intéressant parce qu'il a un style qui évolue énormément. Et là, c'est vrai que par rapport aux dernières expérimentations qu'il avait pu faire entre Omega Flight, Solomon Grundy et son style actuel, l'évolution est assez frappante. Et là, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner sur Justice Society of America.
Voilà, donc en tout cas, on a vraiment l'intention aussi de redécouvrir ce titre, qui en plus fait toujours 2,99€, ce qui est quand même toujours à noter.
Oui, j'espère que quand même DC va vite retirer va vite déconnecter le deuxième titre, parce que c'est quand même une catastrophe absolue.
Ah, ça c'est clair. Mais celui-là, j'ai déjà arrêté de le lire depuis longtemps. Alors, en parallèle, on va revenir à Paul Cornell, on en a parlé pour Soldier Zero.
Tout à fait.
Il est sur deux titres chez DC également. Oui. Une nouvelle mini-série Titan Square.
Qui est en fait un dérivé, enfin c'est un personnage qui avait été créé, enfin qui existait déjà dans la mythologie de Batman, mais qui a été réactualisé par Grant Morrison et qui était apparu dans C'est Batman. Et les quelques apparitions du personnage, ce qui le sont aussi apparus dans les Superman Batman de Geoff Loeb, enfin qui avait été aussi scénarisé par Geoff Loeb. Attends.
Superman Batman
avec Edmund Guinness, donc c'était les Morrison.
Je pense que c'est possible.
Ouais. Ouais. Et finalement, les personnages ont finalement acquis une certaine popularité, ou du moins un désir du. Les lecteurs ont exprimé un désir de les voir un peu plus. Et ce qui fait qu'il y a une série qui est lancée, s'appelle Night and Squire. Donc, les équivalents. De nos chers Batman et Robin, mais dans en Albion.
Voilà, donc ça effectivement c'est la série. Alors il y a évidemment tous les titres sur le retour de quelqu'un dedans dont on va pas vous parler parce qu'on n'en sait rien en fait. C'est encore tout crypté et tout confidentiel. Donc c'est vrai qu'en plus en français on n'en est pas là, donc on va attendre avant de vous reparler. Du retour de.
Vous alors, savez ce sera qui, une, si, une petite chose, ça sera une mini-série de 6 épisodes.
Tout à fait.
Alors, mais ça peut être marrant. On a vu les premières plages, les premières planches qui se déroulent dans un espèce de petit bar secret où on a tous les super-héros londoniens. Et ils ont un peu aussi mis quelques hommages aux publications de 2000 AD et donc c'est assez. Ça donne un petit côté très sympa. Donc.
Et puis bon, il y a quand même autre chose dans l'actualité de Paul Cornell.
Oui,
c'est une guest star dans Action Comics. Il a réussi à obtenir le droit de DC et surtout de Gaiman, parce qu'il faut qu'il demande à Gaiman.
Ah mais c'est même plus que le droit de DC, de toute façon c'est Neil Gaiman. S'il n'avait pas eu l'autorisation de Gaiman, c'était même pas la peine d'espérer utiliser le personnage.
Et voilà, Death va apparaître dans Action Comics.
Alors pour comprendre le truc, c'est qu'en fait normalement les personnages de Vertigo sont réellement, enfin les personnages entre de DC Universe et le Vertigo, l'univers Vertigo sont complètement séparés. Et normalement il ne peut pas y avoir de passage entre les deux.
Normalement, alors, parce qu'il y a des personnages qui sont souvent dans les deux comme Swamp Thing.
Il y a eu quelques exceptions. Swamp Thing, on le voit très peu finalement dans la dernière. Enfin, si je me trompe, une des rares fois où on a pu le voir dans l'univers DC normal, c'était ça avait été le Green Lantern 81.
Oui, il y a celui-là notamment pour l'enterrement de
Dal Jordan, après l'affaire le Final Night. On a eu quoi dans les GLA?
On a eu
Sandman, Daniel qui est passé. Et puis c'est à peu près tout. Enfin, on n'a pas eu de.
Non, c'est vrai que les apparitions sont quand même assez rares. Là-dessus, on peut pas dire le contraire.
Et même chose puisque mais là c'était Gaiman qui avait. C'était un scénario de Gaiman, je crois, sur ce GLA là, non?
Non.
Mark Waid. Et qui avait donc aussi eu l'autorisation de Neil Gaiman.
Voilà, puis il y a aussi le problème d'avoir les autorisations d'ici, parce que parfois c'est DC qui veut pas. Sur Swamp Thing, c'est pas Gaiman qui doit donner son autorisation ou pas.
Oui, non, mais ça, oui, c'est clair.
Donc voilà. Donc là, ils ont eu le droit de le faire. Il y a des choses comme ça qu'on a le droit de faire et d'autres qu'on n'a pas le droit de faire. Dans les choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est de parler des massacres dans les collèges américains.
Oui, donc pour Action Comics, est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas lu les.
La série Action Comics?
Oui.
C'est une série sur Lex Luthor. Pour l'instant, j'ai lu le premier, ça part plutôt bien.
Voyons,
après, voir ce que ça va donner et comment ils vont effectivement la faire rencontrer le personnage.
Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas lu. Puis actuellement, les titres Superman m'ont tellement déçu que j'ai complètement laissé tomber. Donc.
D'accord.
Non, mais c'est pour ça que je me demande si tu les avais lus. C'est pour.
J'ai juste lu le premier, si j'en ai pas assez pour effectivement me faire vraiment un avis. Donc là, pour cette histoire de tuerie, parce que vous me demandez de quoi je parle.
Blooming for Columbine.
Eh oui, parce qu'effectivement, Warren Ellis, quand il était scénariste de Hellblazer, avait écrit un épisode sur une tuerie dans un collège et qui finissait sur un cliffhanger. Qui semblait très délicat à l'époque à DC à passer parce qu'il y avait eu une tuerie juste un mois avant et qu'ils ont dit à Ellis, tu peux le faire si tu réécris la fin. Ellis a dit, il n'est pas question que je réécrive la fin et pour cause, parce que c'est quand même un titre à chute. Et donc, s'il réécrit la fin, ça casse tout le concept. Et donc, DC avait décidé de ne pas le passer. Tout le monde disait effectivement que s'il n'était pas passé, c'était. À cause de Paul Levitz. Paul Levitz étant parti, se sont décidés à le rééditer. Donc il y a un spécial.
Et puis attends, ils sont de. Parce que Paul Levitz est parti. Deux, parce que quand même il y a eu du temps, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts.
Et qu'il n'y a pas eu de massacre récemment.
Et puis bon, c'était un peu con de laisser. C'était un petit peu dommage de laisser traîner au fin fond des tiroirs.
Alors, moi je vais dire juste un truc comme ça.
Oui, on pouvait les trouver en farfouillant sur le net.
Moi, j'ai l'épisode en téléchargé. Je trouvais ça vachement intéressant d'avoir un épisode qui n'est jamais sorti de Warren Ellis et Phil Remenez. Alors, si vous pouviez faire un massacre dans votre collège la semaine prochaine, parce qu'il faut que ce soit avant le 20 octobre, quand même, la date où il sort, pour éviter qu'on nous le ressorte. Non, c'est un conseil à la con que je viens de donner, oublié.
Oui, non, mais surtout qu'en plus, là, ça lance une nouvelle, un nouveau concept. Parce que c'est. Qui s'appelle Vertigo Resurrected. Où en fait ils ont
des rééditions.
Des rééditions d'inédits, d'histoires qui n'avaient pas pu sortir pour diverses raisons ou de vieux un matériel.
Il y a que ce titre-là qui est inédit au final. Tout le reste c'est des rééditions. Vertigo Resurrected, c'est le nom chez Vertigo. Ça s'appelle DC Comics Present chez DC. C'est en fait des TPB agrafés de 96 pages pour 7,99€. Et notamment chez DC, une autre série de Warren Ellis qui ressort comme ça, c'est Jack Cross, une série continue qui n'a eu que 4 épisodes, soit un arc, et qui finissait un peu en nœud de boudin, parce qu'on attend vraiment toujours une suite qu'on n'aura jamais.
Et avec un peu de chance, enfin, j'attends d'en voir la confirmation, mais il semblerait qu'il y ait une réédition qui se prépare de Flex Mentallo.
Oui, alors ça c'est pareil, je suis contre.
Pourquoi? Attends, j'ai pas envie de payer de mettre 80 livres pour pouvoir trouver le pour ces quatre malheureux numéros, non?
Mais moi je les ai. Je m'en fous que les autres les aient.
J'en ai que un sur les quatre. Je cherche désespérément les trois autres à des prix qui sont corrects, on va dire.
Enfin, des prix corrects sur cette série-là, ça n'existe pas.
Oui, mais enfin, entre indécent et correct, même si je sais que ça va quand même douiller, il y a une différence. Donc après, bon, je préférerais les originaux. Mais s'ils arrivent à les ressortir sur un TPV ou sous une forme comme ça, pourquoi pas, parce qu'en plus
si tu es prêt à douiller et à payer à prix à descendre, je les ai à la maison, on peut s'arranger.
J'ai bien compris ce que j'ai dit, je cherche un prix correct, pas un descend. Il y a quand même une marge, on peut arriver à négocier. Mais non.
Non, mais voilà.
Autant je serais prêt quand même à mettre pas mal de fric sur un Uncanny X-Men qui me manque de Claremont Cochrane. Dans les conneries X-Men numéro 94, etc. Oui, là.
Si Thomas a pris en rang que je te les ai vendus, je vais me faire assassiner. En tout cas, là, il y a pas mal de choses qui ressortent.
Oui, parce que là, je crois que je vais les trouver avant.
Voilà, donc là, il y a pas mal, effectivement, de choses quand même dans ce cadre. Et puis, un dernier point quand même, parce qu'il est ici déjà 20h18. Heureusement qu'il n'y a pas de speed screen après nous. C'est Red, donc là aussi, il y a un film. Alors, il y a évidemment un TPB de la série de Warren Ellis et Cully Hamner, un prologue écrit et dessiné par Cully Hamner, et des spéciaux sur tous les personnages du film. Donc voilà, au mois d'octobre, si vous voulez manger du Red, vous allez en avoir à toutes les sauces.
Ah ben, vous avez Thor chez Marvel, Deadpool chez Marvel, Wolverine chez Marvel. Bon, chez DC, vous avez Red.
Et puis ça ne durera qu'un mois.
Hein, voilà. Mais ce qui est déjà pas plus mal. Enfin, je veux pas de mauvaise langue, mais quand je vois les résultats qu'ont fait les dernières adaptations d'ici au cinéma, sont mal barrés. Hein.
Et puis là, c'est vrai qu'il lance quand même 1, 2, 3, 4 one-shots sur les personnages, plus le prologue qui permet de faire compléter un TPB. Donc voilà, si vous avez comme nous lu la première mini-série, achetez le prologue. De toute façon, on aura le temps de vous en reparler. Il est bien évident qu'on vous parlera de la série Red avant la sortie du film.